Alors, l'école de l'amour. Donc ça, c'est une idée de notre pasteur Rodrigue. Moi, j'aime bien ses idées. École de l'amour, ouais, ça peut faire un peu kitsch comme titre, mais j'aime bien parce que Dieu vient nous réveiller là où parfois on s'assoupit. Alors, Rodrigue a déjà parlé de l'authenticité, de l'écoute et de l'humilité, et puis peut-être encore d'autres sujets, je n'ai pas tout en tête. Mais ce matin, j'ai la charge de parler de confidentialité et de la grâce. Et je vais d'abord parler de la confidentialité, et puis vous savez, comme c'est une école, il faut que vous soyez actif, pas que moi. Donc du coup, je vais parler 10 minutes sur un thème, la confidentialité. Après, on va prendre 10 minutes où vous allez vous mettre en petit groupe, et puis vous allez parler, enfin, discuter à partir des questions. Et puis après, je vais reprendre la parole pour 10 minutes sur le pardon, la grâce, et on va refaire encore 10 minutes d'échange. Voilà. Et avant, comme introduction, ben, je voulais vous partager une pensée qui m'est venue au matin de prière, mardi. Dieu, comme ça, alors moi, je ne suis pas le genre à être bien réveillé le matin. En plus, là, j'étais fatigué. J'avais pris en plus qu'un café. Mais Dieu m'a parlé. Comme ça, paf, une pensée très nette, très claire, on sait que c'est de Dieu. Et je pensais bien de vous la partager. Peut-être que vous avez entendu, depuis quelques semaines, même quelques mois, on en parle, qu'on a une ambition ici, c'est de relever les standards. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Ça fait un peu américain d'ailleurs cette phrase, relever les standards. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a des valeurs qui sont bien définies, qui a été un travail fait par l'équipe de direction avant la nouvelle, un remarquable travail. Et on a identifié des valeurs qui sont chères à Clé. Vous savez, les valeurs, c'est ce qui est important pour nous et c'est ce qu'on veut vivre, c'est ce que nous voulons vivre. La grâce, la passion, les relations, la joie, le service, l'excellence et l'implication. Et c'est beau d'avoir des mots, d'avoir comme ça des slogans, etc. C'est bien. Mais ça ne sert à rien si ce n'est pas vécu. Et actuellement, Dieu nous met à cœur de relever les standards, d'élever les standards, c'est-à-dire on veut vivre ces choses, mais d'une manière plus forte, d'une manière plus élevée. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de Dieu qui nous dit, élève-toi, mon Église. Et cette pensée qui est venue pour moi mardi, c'était, mais finalement, pourquoi Dieu nous demande de relever nos standards? Pourquoi? Et puis là, on pourrait se dire, ouais, on a envie d'être une chouette église. Et on l'est, je pense. On a envie d'être des chrétiens vivants, etc. Mais ça, je pense, c'est des conséquences. C'est la conséquence. Mais ce n'est pas ce qui est le cœur, la motivation et la cause profonde. Et je crois, et c'est là où Dieu me parlait, c'est Dieu nous demande aujourd'hui de relever nos standards, de nous attacher à cela, à cause de son amour. À cause de l'immensité de son amour. Parce que Dieu ne renonce pas à son amour et aux standards de son amour. Et qu'il n'abaissera pas le niveau et la qualité de son amour. Et il dit à travers la bouche de l'apôtre Paul, soyez enracinés et fondés dans l'amour, Éphésiens 3, pour être capables de comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Et quand Paul dit cela, c'est intéressant. Il dit pas cela comme ça en passant. Il dit cela à genoux. Il dit, je fléchis les genoux devant le Père. C'est une prière intense de l'apôtre, parce qu'il sait que l'Église en a besoin. Découvrir l'amour du Christ, découvrir l'immensité, la largeur, la profondeur. Alors j'avais une image pour cela, si tu peux la mettre. L'amour, voilà, c'est ça. Nous, on connaît la partie émergée de l'amour, mais l'amour de Christ est beaucoup, beaucoup plus grande. Et simplement, laissez-vous impacter par cette image. Je pense que c'est une image juste. J'ai pas lancé mon chrono. Ok. Alors, je vais, dans cette pensée-là, en fait, je vous invite à reconsidérer la confidentialité que je vais aborder maintenant, et puis la grâce, avec cette ouverture de cœur, avec cette recherche. Quand on disait, il y avait ce chant, il disait, je veux connaître ton amour, je sais plus comment c'est dit, je veux connaître ton cœur. Soyons comme cela. cherchons avec persévérance de connaître son cœur jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui bouge en nous et qui grandisse en nous. Ah, c'était mon intro. Alors maintenant, je vais aborder donc un aspect de l'amour qui est très concret, très pratique. C'est la confidentialité. La confidentialité. C'est-à-dire garder le secret. Respecter une information qui n'est pas là pour être divulguée partout. Alors il y a un passage qui dit dans Proverbe 11, si tu peux le... Voilà. Le médisant divulgue les secrets. Un homme de confiance tient la chose cachée. Alors dans de nombreuses situations, ça peut être au travail, ça peut être dans une réunion, on a plein de réunions, ça peut être même une réunion d'église, puis aussi dans des moments plus intimes de partage avec des amis ou quelqu'un de notre famille, ou avec un frère dans l'église, une sœur. Ces moments où on partage quelque chose d'important pour nous, qui peut être sensible, puis on sent qu'il y a la confiance qui est là, et puis on partage, on ouvre une partie de son cœur. Des moments d'intimité et des moments aussi de fragilité. Parce que quand on partage quelque chose qu'on ne souhaite pas que ce soit divulgué partout, c'est un moment où on s'expose. Le secret n'est pas une mauvaise chose. Dieu d'ailleurs dit qu'il se tient dans le lieu secret pour écouter nos prières dans Matthieu 6. Dieu se tient dans le lieu secret pour recueillir nos confidences. Et Dieu aussi fait des secrets. Il ne dit pas tout à tout le monde, mais il révèle certaines choses, parfois à certaines personnes. Le secret protège. C'est un des aspects du secret. Et un exemple, c'est que moi, je suis père, je ne vais pas parler à mes enfants de tout ce que j'ai connaissance. Parce que je n'ai pas envie que mes enfants s'inquiètent ou prennent quelque chose qui n'est pas pour eux. Notre niveau d'information correspond finalement à notre place et à notre fonction. Alors, quand je fais une confidence, je m'expose, je me rends vulnérable et j'accorde ma confiance à l'autre. Mais c'est une possibilité, cette autre personne peut trahir ma confiance. Je voudrais juste souligner trois points où je pense qu'il nous faut être attentifs quand nous faisons une confidence, quand nous parlons de quelque chose qui est important pour nous et que nous confions quelque chose. La première chose, c'est pourquoi est-ce que nous partageons? Quelle est notre motivation? Ça, je pense que c'est quelque chose d'important parce qu'on peut être un peu, avoir besoin de parler tout le temps et de partager des choses qui parfois ne sont pas à partager. Et je crois que la première personne vers qui est destiné ce trop-plein de nos cœurs, c'est Dieu lui-même, le Père qui se tient dans le lieu secret. Et je crois qu'avant même de parler et d'aller chercher quelqu'un pour confier quelque chose, je crois que c'est important de d'abord le confier à Dieu. Et éventuellement, de le partager à d'autres après. Donc premier point, pourquoi est-ce que je partage? Quelles sont mes motivations? Et je pense qu'on peut être, à cause du passé, à cause de souffrance, à cause de peut-être une propension, on peut être incliné à trop parler. Et je voudrais souligner cet aspect. La deuxième chose, c'est à qui nous partageons. Et là, on peut partager à des gens qui sont peut-être comme nous, qui vont réagir comme nous, et on sait que... Et c'est pour ça qu'on va aller chercher pour partager. Je pense que cela peut être malsain. Il faut qu'on réfléchisse à qui on partage les infos, parce qu'il faut une sagesse en face, il faut une personne capable de recevoir ce que nous partageons. Et enfin, il nous faut être attentif à ce que nous partageons, au contenu. Dans ces choses, on peut être sage ou insensé. Vous savez, la Bible parle beaucoup de la folie, l'insensé. Celui qui fait des choses sans réfléchir, et puis le retour de bâton est sévère. Les dégâts derrière sont sévères. On peut parler à tort ou à travers, Mais je pense que quand on fait ça, c'est qu'on n'a pas saisi que les paroles, que nos paroles sont puissantes. Dieu a créé le monde par une parole. On peut maudire des gens par une parole, même si on est chrétien. Alors, je nous invite à prendre conscience que quand on partage, c'est mettre un poids sur l'autre. Un partage confidentiel, j'entends. C'est mettre un poids sur l'autre. Et dans un sens, c'est tout à fait bon et biblique. C'est partager nos fardeaux avec un autre. Donc quand on a quelque chose de lourd et qu'on a besoin de partager, après avoir fait cela avec Dieu, éventuellement, ça peut être très très bon et biblique de partager ce qui nous pèse avec un autre. Mais en ayant bien réfléchi à qui et ce qu'on va dire exactement. En revanche, ce que nous partageons peut dépasser la capacité de l'autre. Et dans ce cas-là, on met un poids sur sa vie par notre confidence au risque de l'écraser. Et ce n'est pas juste. Et nous sommes responsables de cela. Donc je nous invite juste à réfléchir que finalement, ce qu'on dit, les confidences, les choses importantes qu'on partage, il ne faut pas les prendre à la légère. Ce sont des choses sérieuses. Il y a des limites à la confidentialité. Et je pense que c'est très important d'être capable de dire, de pouvoir dire « Stop, je ne veux pas recueillir ce que tu me dis parce que je pense que je n'ai pas la capacité pour. » Et je pense que c'est important au milieu de nous de développer cette culture, de dire « Stop, je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas entendre ce que tu as à me dire parce que je ne me sens pas capable. » Une deuxième limite de la confidentialité, qui est peut-être plus connue ou peut-être moins connue, c'est la loi. En France, il y a des lois qui limite la confidentialité. Si une personne est en danger, nous devons briser le sceau de la confidentialité. Et les chrétiens sont soumis à la loi, parce que Dieu est celui qui institue les autorités. Alors, j'invite, quand on fait une confidence, à être sage. Et je crois que Dieu veut que nous grandissions dans une sagesse par rapport à ce point. De l'autre côté, quand je reçois une confidence, j'ai le choix, comme dit ce proverbe, d'être une personne de confiance ou une personne médisante. La confiance, littéralement, c'est celui qui a l'esprit fidèle et qui couvre la chose, qui couvre la confidence. Parce que quand il y a un partage intime, douloureux, il y a quelque chose qui est mis à nu, qui est à découvert, qui est fragile. Et de garder le secret, de garder la confidence, c'est comme couvrir ce partage fragile. C'est une question d'honneur, c'est une question de respect, c'est une question d'amour, finalement. Et quand on recueille comme ça, quand on entend un partage, ce qu'on peut faire de simple, en fait, c'est prier, c'est soutenir, c'est conseiller, si cela est bon aussi. Je pense d'ailleurs quelque chose que j'ai appris avec mon épouse, c'est que quand quelqu'un nous partage quelque chose, c'est pas qu'il attend une réponse forcément. C'est pas qu'il attend un conseil forcément. Mais c'est peut-être simplement d'être écouté. Et rien que ça, on partage le fardeau de son frère ou d'une personne. Et ça fait du bien. De l'autre côté, on peut verser dans la médisance. Alors les proverbes utilisent des mots un peu violents. Jésus faisait pareil. Parce qu'on a besoin d'être secoué parfois. Est-ce qu'on peut appeler avec légèreté, oh, j'ai laissé glisser l'info, j'ai pas fait attention, etc. Ben, c'est tout simplement, ça peut être de la médisance. Un ragot. Un racontard. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on trahit la confiance. Et que la personne qui nous a partagé quelque chose se sent trahie. Alors ça peut être volontaire ou involontaire, mais le résultat est le même. Il y a aussi un fait, c'est que quand on connaît quelque chose que les autres ne connaissent pas, on peut se sentir comme ayant un certain pouvoir et avoir envie de jouer avec ce pouvoir. Vous voyez, c'est des choses un peu inconscientes, un peu sourdes en nous là. Alors il faut faire attention à ces choses. La Bible met très très sévèrement en garde les chrétiens contre un petit membre de notre merveilleux corps qui est si difficile à dompter. Tu me tires la langue. Serge connaît sa Bible. En Jacques, Jacques nous dit « La langue est un feu, le monde de l'injustice qui peut embraser une existence et pleine d'un venin mortel. » Et quand Jacques dit ça, il s'adresse à des chrétiens. Et il dit « La langue peut bénir d'un côté et maudire notre frère de l'autre. » Alors, je vais m'arrêter là pour mon partage. Il y a largement plein de choses à dire encore, mais je ne vais pas les dire. Mais simplement, je propose qu'on se mette maintenant en groupe de 3, 4, et puis de partager à partir des questions qui vont être projetées sur la confidentialité, tant quand vous faites une confidence que quand vous recueillez une confidence, et de répondre donc à ces questions. Évalue-toi de 1 à 10 dans ces domaines. Qu'as-tu à gagner ou à perdre à garder le secret? Et quels sont les indicateurs qui montreront tes progrès? Comment tu vois que tu progresses? Comment je peux identifier que je progresse? Voilà. Je vous propose 10 minutes. En groupe de 3-4. Cinq, quatre, trois, deux, un. Voilà, je vous invite à reprendre place pour le deuxième sujet. Merci pour avoir joué le jeu. Finalement, c'est intéressant de voir que comme une ruche qui butine, comme une ruche qui butine, donc ça a travaillé, ça a échangé. Et en fait, c'est très bien, finalement, on peut même continuer ces discussions plus tard. Alors, je vais maintenant aborder le deuxième sujet, qui est un sujet plus sensible. Et qui est la grâce. Et j'ai choisi de prendre cela parce que la grâce, ça peut être plus large, mais le cœur de la grâce, c'est le pardon, je pense. Et donc, je vais plutôt focaliser sur le pardon. Ça fait partie de ces sujets, on croit les connaître par cœur. Et quand je me suis mis à réfléchir sur ça, j'ai... Je pensais à des trucs que je n'avais pas réalisés avant. Alors, j'ai commencé par une question. La grâce, faire grâce, pardonner. Pourquoi est-ce que je pardonne? Pourquoi est-ce qu'on pardonne? Pourquoi est-ce qu'on fait grâce? Alors, faire grâce, c'est dans le langage peut-être un peu plus d'église chrétien, mais pourquoi est-ce qu'on pardonne en fait? Ouais. Alors, on a plusieurs comme ça réponses. Comme ça, a priori, on pourrait dire parce que ben j'ai été éduqué comme ça. C'est bien de pardonner. Parce que j'ai un caractère, un tempérament plutôt conciliant, plutôt harmonieux. J'aime pas avoir les relations chahutées comme ça. Moi, je suis comme ça, en fait. Je suis quelqu'un de conciliant. On peut dire parce que c'est bien, c'est chrétien, c'est important. Peut-être aussi parce qu'on se dit, ben un jour, c'est lui qui me fait cette offense, mais peut-être demain, ce sera moi. Donc comme j'aimerais bien que faire aux autres ce qu'on veut qu'on nous fasse, quoi. Alors, les raisons que je viens de citer, ça peut très bien faire l'affaire, ça peut très bien marcher, fonctionner, quand on a les difficultés de la vie, le quotidien et les offenses. Je dirais les petites et les moyennes offenses. Mais le jour où on rencontre un gros problème, une offense qui vraiment nous blesse, ou qui blesse quelqu'un de proche et ça nous impacte fortement, là ça devient compliqué de pardonner. Là on réalise hop, notre limite. Et là, on peut se reposer la question, mais pourquoi en fait, il faut pardonner? Et donc ce que je veux interroger ce matin, ce que je veux réveiller un peu, c'est sur quelle base on pardonne. Alors en réfléchissant à ça, j'ai une pensée que je vous partage. J'ai été un peu surpris de cette pensée parce que je me disais, ah mince, ça n'a pas l'air très chrétien cette pensée. Je pense qu'elle est biblique, mais en fait, je me suis dit, pardonner, eh ben c'est pas normal, c'est pas naturel et c'est pas juste. Chacun sent au fond de lui quand il y a une grave offense, qu'un pardonner c'est pas naturel. On le sent. Il y a un truc qui crie en nous, mais c'est pas juste. Alors chacun peut avoir des exemples en tête. Et je pense que quand on est à ce niveau-là, notre bonne éducation, nos efforts pour être bon chrétien, eh ben ça suffit pas, ça suffit plus. Et en fait, c'est pas du tout une base solide ça pour pardonner. Parce qu'en fait, en vrai, je crois, le pardon c'est pas juste. Ce qui est juste, c'est que le coupable y paye. Ce qui est juste, c'est que le coupable soit puni. Ce qui est juste, c'est qu'il y ait un châtiment. Pardonner, est-ce qu'on se rend compte que pardonner, c'est dire du coupable qu'il n'est plus coupable? Mais c'est pas juste. Et ça enfreint le droit, la loi qui est inscrite dans notre conscience. Je dis le coupable n'est plus coupable. On n'a jamais entendu quelqu'un, un homme politique, dire Hitler est pardonné. C'est pas possible d'entendre quelque chose comme ça. Donc, il y a un problème dans le pardon. C'est la justice. Et là, c'est important de réaliser que le pardon n'est pas du tout l'affaire d'un coup d'éponge par amour. Je t'aime, j'efface. C'est pas ça du tout. Ça peut marcher quand c'est des petites choses et que c'est superficiel, mais c'est pas le pardon biblique. Dieu a eu ce problème. Parce que Dieu est juste et il est le garant de la justice. Et Dieu est amour. Et il aime chaque être humain et même le pire, même Hitler. Il est amour. Alors Dieu a un problème. Et Dieu a résolu le problème. Jésus, qui est Dieu, a été déclaré coupable à notre place. Et en faisant cela, la justice est satisfaite. Et dans un sens, Jésus qui est Dieu, c'est comme si Dieu prenait sur lui toute l'injustice de la situation. Donc quand nos cœurs crient, c'est injuste, Jésus l'a pris sur lui, cette injustice. Et à cause de cela, nous sommes tous dans cette salle, si nous avons fait cette démarche envers Dieu, nous avons été déclarés par le Saint-Esprit qu'il a mis en nous non coupables. Pour tous tes péchés, pour toutes tes erreurs, non coupables. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui triomphe, sans renoncer à sa justice. La justice a terrassé Christ à notre place. Et quand je rémédite ces choses, je suis toujours étonné d'un fait. C'est que Dieu, je pense, n'était pas obligé. N'était pas obligé d'avoir cette solution-là. Quand on regarde au début de la Genèse, il y a le déluge. Le déluge, c'est quoi? Ils font n'importe quoi, ces êtres humains, ils font que des pécheurs, et j'efface tout, et je recommence. Et je pense que Dieu n'était pas obligé de pardonner. C'est un choix qu'il a fait de pardonner. C'est le choix de Dieu. Alors, je crois, je pense, que le pardon d'un être humain, et a fortiori chrétien, trouve son sens et sa force dans le pardon de Dieu. Je pardonne parce que j'étais coupable et que Dieu m'a pardonné. Je pardonne parce que Dieu, mon Père, veut pardonner à celui qui m'a offensé. Et ça, je pense, c'est la base solide pour tout pardon. Et ce qui est très intéressant, c'est de constater que dans la prière du Notre Père, qui est un essentiel, c'est une quintessence, eh bien, le pardon est la seule consigne que Jésus donne dans cette prière concernant les relations humaines. La seule. Ça veut bien dire que le pardon est une clé dans nos relations. Quand même, dans le Notre Père, il y aurait pu y avoir aimez-vous les uns les autres. Père, aide-nous à nous aimer les uns les autres. C'est quand même le premier commandement. Mais dans le Notre Père, c'est pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et là, ça montre qu'il y a vraiment quelque chose de très important. Il ne faut pas passer à côté de ça. Le pardon. Il y a une énorme puissance dans le pardon. Vous savez, même les mots sont importants. De dire excuse-moi, de dire je suis désolé, eh ben, c'est pas pareil que de dire je te demande pardon. Là, ça va beaucoup plus loin, beaucoup plus profond. Et quand on dit ça, c'est qu'on vraiment on reconnaît avoir été un vecteur, un canal pour le mal. Et c'est important. Parce que c'est là, dans cet acte-là, qu'il y a une puissance qui vient de la croix, qui coule sur la situation, sur le cœur de celui qui a fait l'offense et sur le cœur de celui qui a été offensé. Le pardon protège les relations, comme une muraille. Et vous savez, le diable utilise le péché, utilise le non-pardon, l'absence de pardon, comme un mécanisme pour enrayer toute la machine humaine. Il y a des cycles comme ça qui sont identifiés dans les psychologues, etc. Le ressentiment, l'offense crée le ressentiment, et puis il y a la colère qui vient, qui monte, et cette colère bascule en haine, et la haine bascule en violence. Ce sont des processus comme ça que Satan sait très bien jouer avec. Et le pardon brise ces processus. Le pardon arrête complètement, enraye ces cycles. Alors, nous avons la grâce d'avoir cette révélation du pardon. Et nous avons une responsabilité en tant qu'Église de vivre et d'entretenir la grâce au milieu de nous, et c'est-à-dire de vivre et de pratiquer le pardon. Et vous savez, le pardon devance. La grâce n'attend pas, assis sur un siège, attendre que l'offenseur vienne s'humilier devant moi pour qu'il me demande pardon. La grâce devance. Je pardonne avant même qu'il m'ait demandé pardon. Dieu a envoyé son Fils mourir pour des pécheurs qui s'étaient même pas encore repentis. Ça, c'est une attitude. Et c'est l'attitude dans laquelle notre Église peut vraiment grandir, parce que en faisant ça, on ferme la porte à l'action du diable. Et bon, et dans différents cercles comme l'APS, on parle abondamment de ces choses, mais il y a vraiment une puissance phénoménale dans l'acte du pardon et d'en demander pardon. Il y a une guérison des cœurs. Il y a une liberté qui vient. Et je vais terminer juste sur une idée, c'est que, dans un sens, alors, tout être humain est encouragé à pardonner, et je pense que c'est vraiment un très sage, bon conseil pour des personnes non chrétiennes de pardonner. D'ailleurs, je crois il y a des mouvements comme ça qui prônent le pardon. Mais pardonner, pour avoir toute la puissance du pardon, c'est un acte profondément spirituel. Ce ne sont pas du tout nos sentiments et nos émotions qui pardonnent. Et même, ça peut être trompeur de pardonner sur la base de nos sentiments. Il ne faut pas attendre que nos sentiments soient apaisés pour pardonner. Au contraire, c'est un positionnement spirituel. C'est l'être spirituel qui se positionne, qui dit « Je suis pécheur pardonné par mon Dieu et je suis un fils et une fille qui imitent mon Père et qui fait le même choix que mon Père, je pardonne. » Et c'est un positionnement, c'est un choix et c'est après, éventuellement, que les sentiments évoluent. Voyez ce que je veux dire? Nous ne devons pas pardonner, attendre que nos sentiments soient au feu vert pour pardonner. Au contraire, prenons position immédiatement, comme ça on ferme la porte au diable et on proclame qu'on pardonne à cause du fait qu'on est soi-même pardonné par Dieu et que c'est notre Père, que nous sommes ses enfants. Et là, Dieu agit et il libère une consolation en nous, une guérison. Il y a comme un détachement par rapport à l'offense qui se crée en nous. Il y a peut-être l'Esprit Saint qui vient convaincre de péché l'offenseur. Ça marche comme ça. Je crois que c'est vraiment l'ordre. Donc le pardon, je pense que nous sommes appelés à grandir dans la pratique du pardon comme des enfants de Dieu. Pas comme l'être naturel avec ses émotions, mais comme des enfants de Dieu qui imitent leur Père et qui sont eux-mêmes rachetés. Et juste pour conclure, et après on va encore avoir ce petit temps, max 10 minutes, d'échange là-dessus, mais je voudrais juste dire, je crois que l'amour de Dieu veut battre dans nos cœurs. Vraiment, vraiment fortement. Et pour ça, nos cœurs ont besoin de s'élargir. Et c'est ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Parce que son amour si puissant, si grand, il veut battre dans nos cœurs. Il veut que nos cœurs battent avec lui. Et c'est ça que Dieu est en train de faire. Alors, vraiment, je vous invite à revisiter cette histoire du pardon avec cette pensée-là. Si tu peux mettre les questions. Donc, on a choisi de garder toujours les mêmes questions, comme ça laisse les repères. Et donc là, ce sont les mêmes questions, mais déclinées autour du pardon. S'évaluer de 1 à 10, qu'ai-je à gagner ou à perdre, à pardonner, et quels sont les indicateurs qui montreront mes progrès.